au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour, merci d'être fidèle à cette émission littéraire de Canal Académie qui vous présente, autant que faire se peut, tous les livres écrits par les académiciens, qu'ils soient actuels ou du passé. Et dans cette émission, je voudrais vous faire découvrir un livre surprenant et un auteur souvent dérangeant, rejeté, voire même renié quelquefois. Il s'agit du texte « Soliloque du prisonnier », un texte rédigé par Charles Maurras, qui fut élu à l'Académie française en 1938. Ce court texte fait partie d'une collection, Carnet, des éditions de Lerne. Il est publié en 2010. Et pour nous le présenter, j'ai le plaisir de recevoir celui qui en a rédigé la présentation et qui dirige la collection Philosophie des Carnets, François Livonnet. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être venu répondre à notre invitation. Je voudrais d'emblée dire que le fait que nous parlions de ce texte de Maurras ne souligne pas que nous partagions toutes ses opinions et que nous adoptions toutes ses prises de position, surtout quand elles étaient antisémites, comme on sait. Il n'empêche qu'il était membre de l'Académie française. Alors je voudrais rappeler brièvement qu'il est né en 1868, mort en 1952, né en Provence, à Martigues, une région qu'il a toujours aimée, et qu'il fut tout à la fois poète, on oublie un peu peut-être qu'il fut poète, et son recueil de poésie « La musique intérieure » est paru en 1925. Il fut critique littéraire, ce que l'on sait, journaliste, théoricien politique, bien sûr, il a laissé de nombreuses œuvres politiques et ses positions sont connues. Il est nationaliste, royaliste, fortement antidémocratique. La démocratie inane chimère, écrit-il, et c'est un de ses faux remèdes universellement employés, je le cite. Mais François Livonnet, vous allez sûrement nous en parler, il était aussi fortement anti-allemand et il n'a jamais été favorable au nazisme. Alors, dans quelles conditions Charles Maurras a-t-il rédigé « Soliloque du prisonnier » ?
Oui, alors Maurras est en prison. Il a été condamné en 1945 à la réclusion à perpétuité pour intelligence avec l'ennemi. D'ailleurs, c'est une condamnation un petit peu problématique déjà. Comment peut-on être condamné pour intelligence avec l'ennemi, l'allemand en l'occurrence, et en même temps être germanophobe? Évidemment, c'est un paradoxe. Il est en prison depuis 1945. Il sera libéré par grâce médicale quelques mois avant de mourir. Il mourra à Saint-Symphorien-les-Tours. Donc pendant à peu près 6 à 7 ans, Maurras en prison travaille. Il reçoit, et il y a même des anecdotes assez croustillante. Il lui arrive parfois de faire venir un cuisinier de Martigues pour lui préparer une bouillabaisse.
Dans quelle prison est-il ?
À Clairvaux.
À Clairvaux.
Il est à Clairvaux.
Il a quel âge ?
Il a 80 ans, plus de 80 ans. Il travaille beaucoup. Et ça, c'est très surprenant. Ce vieil homme usé, qui est tout de même mis au banc de la société, qui pèse sous des condamnations infâmes tout de même, il travaille et il produit des œuvres qui sont à la fois des œuvres théoriques de philosophie politique, classiques, d'inspiration très classique, comme L'ordre et le désordre, qui a été d'ailleurs publié dans la petite collection dont vous parliez. Et des textes plus rattachés à sa culture classique, une réflexion sur Antigone par exemple, texte très fort parce qu'il est emprisonné et se trouve posée la confrontation entre Créon et Antigone, entre celui qui est censé défendre les lois de la cité et Antigone qui ferait valoir d'autres lois plus essentielles et qui justifieraient de contester celle-ci. En tout cas, il y a un ensemble d'œuvres qui témoignent d'une réflexion qui n'est jamais amère, qui est très vive, c'est vrai, qui témoigne aussi d'une absence totale de doute quant à ses engagements antérieurs. Il n'y a pas la moindre autocritique, il ne comprendrait pas d'ailleurs une autocritique. De ce point de vue-là, il y a, c'est tout le paradoxe de Maurras, hein, il y a à la fois une extrême lucidité dans l'analyse politique et en même temps de très grands aveuglements. Lucidité, on en reparlera dans son analyse géopolitique, lucidité dans l'avant-guerre, les conditions de la guerre, la façon dont, non préparé, on a de façon précipitée déclaré la guerre. mais aussi des aveuglements parce qu'il n'a rien compris, au fond, à la spécificité du nazisme judéocide. Il n'a pas pris l'ampleur de ce massacre qui est sans commune mesure. Il n'a peut-être pas totalement compris que, plus encore qu'avec la Première Guerre, la Seconde Guerre terminait une époque pour en commencer une autre. Même s'il entrevoit des choses importantes de cette nouvelle époque, de ce nouveau monde, il ne prend pas exactement la mesure de ce qui se passe. Juste une remarque à cet égard, son propos, mis à part la latinité, sa géopolitique, c'est une géopolitique au fond très européenne et qui reste très européenne. Le monde à venir, notre monde, c'est un monde qui a été décentré par rapport à cette Europe historique. Donc les cadres mentaux sont des cadres qui sont encore ancrés dans l'époque des nationalités, dans le 19e siècle. C'est un peu mon idée, mon hypothèse, c'est que je crois que Maurras est un homme du 19e siècle. Il n'aime pas le 19e siècle, un siècle stupide, dira-t-il après Daudet. Mais il est tout entier dans ce 19e siècle, par les enjeux, par les passions, par les références.
Alors François Livonnet, comment avez-vous découvert ce texte soliloque du prisonnier ? Alors je dis tout de suite que c'est un petit texte, en ce sens qu'il comporte une cinquantaine de pages. Ça n'est pas un gros livre, c'est sans doute un grand texte vis-à-vis de la découverte que l'on peut faire de Maurras en le lisant, mais c'est quand même un texte de petit nombre de pages.
Ah bah écoutez, nous sommes parfaitement situés, puisqu'il y a juste en face de mon regard des bouquinistes. J'ai trouvé ce livre chez un bouquiniste.
En fouillant chez les bouquinistes. On trouve encore des merveilles.
Eh bien, on trouve encore ce petit texte, qui est un texte, en effet, à la fois très peu connu et atypique, puisque c'est un long article qui était destiné à une revue sud-américaine, argentine, qui d'ailleurs n'est jamais parue. Bon, on prétend, Maurras aurait été évidemment ravi de cette hypothèse, que la communauté juive argentine n'aurait fait obstacle à ce que Maurras, nous sommes tout de même très près après sa condamnation, publie un texte de ce type, dans lequel il y a d'ailleurs des allusions à la question juive sur un mode inchangé, c'est-à-dire que quand il parle de monsieur un tel, il met entre parenthèses Cohen, comme si c'était une façon de d'éclairer la manière d'être de ce monsieur en question. Donc c'est un texte particulier parce que c'est d'abord un article qui devait paraître en espagnol et d'autre part, Maurras fait parler Maurras, ce qui est une grande curiosité quand on lit cela.
Il ne dit pas « je », il dit « Maurras ». Donc il parle de lui-même à la troisième personne.
Voilà. C'est un texte qui est dans la veine d'un certain Maurras, c'est-à-dire toujours parfaitement écrit. C'est un écrivain classique, mais en même temps très polémique, incisif. Il garde des habitudes de l'avant-guerre, quelque chose qu'on a un peu oublié aujourd'hui, cette violence aussi verbale. On ne s'embarrassait pas d'épithètes.
Il a des formules vraiment virulentes.
Virulentes, ça n'a pas changé. Ces formules, on n'imagine pas quand même. Aujourd'hui, quand on voit que ministre s'étonne des portraits qu'on fait de lui à la radio, sans préjuger de la qualité de ces portraits, quand on voit les portraits ou les invectives de Maurras ou de ses proches, comme Daudet, par exemple, à l'Assemblée, c'est absolument invraisemblable.
C'était un autre ton, oui absolument. Alors, est-ce que ce texte avait déjà été publié ? Vous avez dit non, en fait, c'est la première fois qu'il est publié.
Je l'ai trouvé sur
les quais. Vous l'avez trouvé publié, vous ne l'avez pas trouvé d'article de revue ?
Non, pas du tout. Ça a été publié dans une petite maison d'édition, à très faible tirage, très probablement. D'ailleurs, c'est une publication modeste, pas de très bonne qualité. Le papier ressemble encore presque à du papier de guerre, qu'il se défait, il est un peu jauni. Mais ce texte a retenu mon attention, d'abord parce qu'il y a peu de textes de Maurras assez courts, qui peuvent être édités comme tels, et puis parce que ce texte développe une vision, qui est à la fois une vision très ancrée dans la nation, qui est quand même un concept clé chez Maurras, et en même temps une vision très ouverte sur le monde, et en particulier sur le monde latin.
Alors on va revenir à ces idées, on va les développer un petit peu. Je voudrais seulement dire le début de ce livre, de cette lettre, de ce soliloque. Déjà le mot est absolument formidable, soliloque. « Vous me demandez des nouvelles de Charles Maurras, j'en ai de sûres, les voici. » Et d'ailleurs, chaque chapitre démarre très fort avec lui. C'est une de ses qualités littéraires. Par exemple, au chapitre 2, j'ai noté « On prétend que Maurras radote sur la France. Point. Ça commence fort. Ou alors au chapitre 8, mais Maurras n'est pas pour le désespoir. Donc déjà, on voit son talent littéraire, c'est clair, c'est net, c'est incisif. Alors, on va parler maintenant des deux parties. Il me semble, vous allez me dire si j'ai raison, qu'il y a eu deux parties dans ce court livre. Il y a ses positions vis-à-vis de l'Allemagne, du nazisme et de la guerre. Et puis son concept qu'il défend, qu'on appelle le concept de latinité. Mais si vous voulez bien, juste avant de développer ça, on va marquer une courte pause.
Un jour dans l'histoire revient sur les raisons de la condamnation par l'église de Galilée copernicien en compagnie d'Aimé Richard. Pour tout comprendre sur le contexte politique, scientifique et historique, téléchargez dès maintenant cette émission sur Canal Académie.
Retour dans notre studio avec François Livonnet qui dirige donc la collection Philosophie des carnets des éditions de Lerne et qui vient de publier ce texte tout à fait surprenant de Charles Maurras, membre de l'Académie française. Alors Maurras, dans cette première partie, développe sa position vis-à-vis de l'Allemagne. Elle est très simple. Comme vous dites, il a toujours été germanophobe, mais depuis longtemps.
Oui, c'est-à-dire que, d'abord, il l'est depuis, en effet, ses jeunes années, 1894. Mais cette méfiance à l'égard de l'Allemagne, cette haine, entre guillemets, à l'égard de l'Allemagne, c'est une haine à l'égard de ce qui, pour lui, est la barbarie. Et il a en vue cette Allemagne telle qu'elle va se développer dans la pensée allemande du XVIIIe siècle. On pourrait même d'ailleurs remonter avant, faire remonter à Luther. Et il va mêler ensemble la tradition allemande et le protestantisme et la réforme. Mais surtout, bien sûr, les discours de Fichte à la nation allemande, c'est-à-dire le développement d'une conception de l'État et d'une conception nationale qui prétend faire remonter la langue allemande. Il y a la vieille nation germanique, comme si c'était une langue mère, et par conséquent l'idée qu'il y aurait en Allemagne une sorte de primauté culturelle. Quand on dit ça, on ne peut pas ne pas penser à ce que diront plus tard des gens comme Heidegger, et mettant la langue et la culture allemande dans une sorte de relation privilégiée avec la pensée antique, comme s'il y avait eu là une continuité. Bon. Maurras dénonce ce qui, dans la pensée allemande, développe un individualisme forcené, une contestation des vieilles nations appuyées à la fois sur l'histoire, mais également sur la diversité. Il conteste la place aussi dans la tradition allemande, curieusement, et on va voir que ça peut entrer en contradiction avec d'autres positions de Maurras, l'importance par exemple qu'avec des gens comme Herder, l'importance de la race, c'est-à-dire d'associer la nation à la race. La germanité se transmet par le sang. Il n'y a pas cela chez Maurras. La nation française, ce n'est pas une nation qui repose sur la race, ou si race il y a, c'est dans un tout autre sens. Ce n'est pas la race par le sang, c'est la race au sens où il y aurait une sorte de filiation revendiquée. N'oublions jamais que Maurras est un grand lecteur de Renan, par exemple, et on sait qu'il y aura l'affrontement entre Renan et Herder sur cette question de la nation. Donc l'Allemagne, c'est l'ennemi culturellement. Ce que l'Allemagne représente, c'est un danger pour cette Europe que lui défend, qui est une Europe qui plonge essentiellement dans Athènes et Jérusalem, essentiellement dans Athènes et Rome d'un côté. Et il ne faut pas oublier Rome, on en parlera tout à l'heure, parce que c'est là que la latinité prend son sens. Mais également dans Jérusalem, mettons des guillemets multiples, parce que son Jérusalem est évidemment vidé à bien des égards de toute judéité. C'est un Jérusalem pris en charge par l'Église catholique dont le destin sera inséparable de la monarchie française. Donc oui, l'Allemagne, c'est l'ennemi. Vous avez raison de souligner que dans ce petit texte, il reprend nombre d'arguments pour essayer de montrer, c'est, reconnaissons-le, plus ou moins convaincant, pour essayer de montrer que le nazisme procède de tout entier de cette barbarie inscrite dans la tradition allemande depuis les commencements. Il faut toujours se méfier d'une lecture simple avec des filiations simples et de lire déjà dans Hegel Hitler ou de lire, pourquoi pas, dans Luther Goebbels. Méfions-nous. Alors, d'un côté, c'est vrai que le nazisme procède d'une tradition nationale, d'une tradition étatique, de traditions idéologiques qui peuvent remonter dans l'histoire de la pensée allemande. Mais il y a aussi, avec le nazisme, une rupture radicale.
Mais Maurras ne la voyait pas, voilà, ou ne l'a pas souligné, voilà, en tout cas. Il ne la voyait peut-être pas.
Voilà. Il ne la voyait pas, tout aveuglé par sa germanophobie, il n'a pas vu ce qui, dans l'histoire allemande, a pu être une rupture. Par exemple, il n'a pas vu ce qui, dans la République de Weimar, a pu constituer des oppositions au nazisme. Il n'a pas vu que cette Allemagne du début du XXe siècle, c'est une Allemagne diverse. Hein. C'est une Allemagne qui est elle-même travaillée par des contradictions. Donc il y a une vision ici un peu trop linéaire et un peu trop simplifiée.
Manichéenne, un peu trop manichéenne. Pas,
mais
oui.
Par exemple, hein, il ne mesure pas ce qui fait quand même la spécificité du nazisme. C'est son racialisme. Le nazisme est inséparable de l'antisémitisme à prétention, entre guillemets, scientifique, anthropologique. Il suffit de lire Mein Kampf et de voir la place qu'occupe le Völkisch, le principe du peuple. On ne peut pas séparer le nazisme d'un antisémitisme très particulier. Lui ne l'analyse pas comme tel. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il réagira aux grandes rafles, il réagira aux mesures anti-juives, de la même manière que des mesures anti-juives auraient pu être prises au XIXe siècle par tel député antisémite français. Vous savez qu'il y a des députés qui étaient élu en particulier en Algérie sur des listes antisémites. Il ne voit pas la différence entre les mesures anti-juives contemporaines du nazisme et de la guerre. Il ne voit pas la différence avec celles qui pouvaient exister ou les discriminations qui pouvaient exister par le passé. Alors il y a une différence tout de même de nature. Même si rien ne naît de rien, il y a tout de même des ruptures. Maurras ne nous aide pas, sur ce point précis, à les penser.
Et pourtant, il devait bien connaître le sujet, puisqu'il a rédigé en 1937 une préface d'un livre contre l'hitlérisme. Donc on ne peut pas dire qu'il ne connaissait pas les théories de l'hitlérisme, enfin les théories du nazisme.
Absolument. Mais
il était aveuglé par sa germanophobie. C'est l'explication que vous pouvez donner.
Je vois que sa critique qu'il fait de l'hitlérisme est une critique du nationalisme allemand. C'est-à-dire que cette critique qu'il fait d'Hitler, c'est une critique qu'il fait presque dans les mêmes termes de Fichte, qu'il fait dans les mêmes termes d'Herder, de toute la tradition allemande, voire même de Bismarck. À la fois, parfois, avec une fascination, en disant que ces gens avaient quand même une continuité, une détermination que nous n'avons pas. Mais il n'y a pas cette différence majeure qui nous permet quand même de saisir des phénomènes idéologiques aussi pour ce qu'ils sont, et pas simplement pris dans des générations.
Autre critique que Maurras s'adresse, alors j'allais dire aux Français, c'est très précisément la déclaration de guerre. Il écrit dans la page 19 de ce livre « L'acte du 3 septembre 1939 » fut un crime contre la patrie.
Oui, alors ça, vous soulignez quelque chose qui, à mon avis, sera et restera chez Maurras. C'est une intelligence politique et en particulier une intelligence géopolitique. Il ne faut pas oublier que Maurras a écrit avant la guerre de 14 un maître livre qui s'appelle « Quel est Angers ?», qui est un des premiers traités de géopolitique en France. Une analyse très remarquable, montrer que la politique, ça suppose d'apercevoir aussi des relations non seulement interétatiques, mais de prendre en compte de multiples paramètres géographiques, mythologiques, passionnels, économiques, sociologiques, etc. Donc Maurras est un fin politique. Et de ce point de vue-là, l'analyse qu'il nous livre, c'est vrai qu'elle s'impose aujourd'hui, peut-être parce qu'on se libère d'un certain nombre de climats passionnels, c'est que la déclaration de guerre a été faite de façon très précipitée. Ça veut dire que nous n'étions pas prêts et que la guerre a été perdue pas simplement par défaitisme. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs que le défaitisme ? Est-ce que le défaitisme, c'est simplement une abdication des sentiments ou est-ce que le défaitisme ne reflète pas aussi une absence de préparation d'une nation à tous égards, aussi bien dans les mentalités qu'une préparation économique, militaire au sens technique et matériel du terme ? Donc Maurras, sur ce point, fait une critique, une objection qui est à recevoir. On peut ne pas être d'accord, mais elle n'est pas, ça n'est certainement pas...
Ce n'est pas le résultat d'un aveuglement cette fois-ci.
Ni
au
d'un
contraire,
aveuglement,
d'une lucidité.
Ni d'un défaitisme.
Ni d'un défaitisme.
L'Allemagne est l'ennemi. Battre l'Allemagne nazie, c'est battre la barbarie. Maurras est le premier à prendre modèle sur Périclès, lorsque Périclès veut mobiliser les Athéniens contre l'ennemi. Donc certes, comme Périclès, mobilisons-nous, mais encore, Périclès l'a fait au moment où Athènes pouvait combattre et peut-être gagner. Une défaite, c'est une autre affaire de sortir et de se relever d'une défaite.
Alors puisque nous parlons d'Athènes, évidemment, la deuxième partie, ou plutôt la seconde partie de ce texte soliloque du prisonnier, il défend son concept de latinité et d'esprit latin. Mais qu'entend-il par l'esprit latin ? Ça veut dire que les gens du Nord ne peuvent pas en faire partie ? Qu'est-ce que l'esprit latin pour lui ?
Alors, il y a deux choses, à mon avis, dans cette affaire. La première, c'est que Maurras était extrêmement attaché à Athènes et à Rome, aux mamelles, si l'on veut dire, de notre culture classique. Je dis bien Athènes et Rome. Pas simplement Athènes. Il reprochait à certains héléphiles, je ne sais pas comment on dit, hellénophiles, adorateurs de la Grèce, d'oublier l'apport essentiel de Rome. Rome, c'est l'État, Rome, c'est le droit. Et sa vision de la latinité, elle est inséparable aussi de cette conception de l'État et du droit, de ce legs latin, c'est-à-dire au fond de cette manière de concevoir une manière de vivre ensemble, de concevoir le bien commun, à la fois avec la présence d'un État, un État fort, mais cet État fort n'est que le garant, d'une certaine façon, de la diversité. C'est la vieille idée de Maurras, qui est une idée qui aujourd'hui peut faire sourire. C'est que Maurras est anti-démocrate, c'est vrai, mais il est contre une démocratie, si j'ose dire, verticale, au profit d'une sorte de démocratie horizontale, c'est-à-dire d'une multitude de républiques qui s'auto-gèrent d'une certaine façon. Maurras est le premier à défendre les particularismes linguistiques, les particularismes culturels. Il fait partie du groupe Félibre, la défense de la langue provençale. Donc, cette latinité, c'est une merveilleuse mosaïque de cultures, de langues, qui toutes puisent dans ce fond latin et grec. Et en même temps, cette diversité a trouvé à chaque fois des occasions de rayonnement d'autant plus fort que ces rayonnements se sont exprimés sous la forme d'organisations politiques qui sont à la fois garantes de l'unité, de l'ordre et en même temps de cette diversité.
Alors il y a quelque chose que je n'ai pas très bien compris dans ce texte, c'est vers la page 63. Maurras est contre les régimes fédéralistes, mais en même temps, il est fasciné par le régime de la Suisse.
Oui.
Alors comment on explique ça ?
Non, puis vous pouvez ajouter une chose qui peut nous surprendre aussi, c'est que la Suisse, c'est aussi une terre où le protestantisme et un certain protestantisme calviniste a prospéré par conséquent. Oui, c'est évidemment un peu paradoxal. D'ailleurs, il y a des textes dans lesquels Maurras, pour qualifier Rousseau et Calvin, les traite de Suisses. Donc, d'un texte à l'autre, la vision de la Suisse n'est pas forcément la même. Mais ici, ce qu'il retient, c'est d'abord cette nation suisse séculaire, quelques siècles, 6 siècles d'histoire d'une Suisse qui est à la fois extrêmement diverse, à la manière des provinces françaises de l'Ancien Régime, extrêmement diverse, à la fois dans ses langues, dans ses cultes, dans ses références, et en même temps une, est tellement unie dans une sorte de vision helvétique, une revendication presque très patriotique, curieusement, que celle-ci a eu le bon goût de ne pas déclarer la guerre. La neutralité suisse, pour Maurras, ce n'est pas un signe de faiblesse, hein. C'est d'une certaine manière, là, en l'occurrence, un signe de force. Donc j'ai l'impression que cette Suisse, c'est une Suisse qui est un peu mythologisée.
Idéalisée, oui.
Idéalisée, c'est une Suisse qui représente en creux ce que nous n'avons pas fait. Donc par conséquent, elle est parée des qualités que nous n'avons pas eues et que nous n'avons plus. C'est, reconnaissons-le, une positivité faible.
Alors, il y a un autre chapitre qui m'a aussi un peu gêné, il faut le dire, c'est le chapitre 7 de ce soliloque. C'est lorsqu'il raconte, au fond, avec éloge, l'Espagne de Franco. Ça, c'est tout de même un peu gênant aussi, ou alors il faut l'expliquer dans le schéma maurassien.
Ah bah oui,
sans doute.
Si vous voulez, Franco pour Maurras, Franco, Salazar. Il faudrait aussi donner l'exemple de bien des pays d'Amérique latine qui vont être profondément influencés par Maurras. La vision que Maurras a de Franco, c'est une vision qui est passée totalement à côté de ce qu'aurait dû, mais on peut comprendre que ça ne fut pas le cas, ce qu'aurait dû l'éclairer, c'est les analyses par exemple de Bernanos. Bernanos qui est un ancien de l'Action française, mais qui s'éloignera de l'Action française à partir de la condamnation du Vatican et qui deviendra très critique de Maurras. Bernanos a très bien vu que Franco, c'est pas simplement la restauration de l'ordre, des valeurs éternelles, de la famille, les valeurs chrétiennes, réconcilier l'État et l'Église. Il y avait une dictature très violente, qui ne s'embarrassait pas de moyens pour rétablir l'ordre. Alors que, sur ce point précis, Maurras était beaucoup plus proche de Pétain. Je rappelle que Pétain a été ambassadeur de France à Madrid. Pétain a été très proche de Franco et de certains milieux franquistes. À l'époque où Franco pouvait apparaître comme étant l'alternative, ça peut être paradoxal, l'alternative au nazisme, c'est-à-dire une tradition nationale qui n'accordait aucune espèce de concession ni au marxisme, ni au libéralisme, ni au capitalisme plutocratique, pour reprendre les vieux termes de l'époque. Donc à la fois une sorte d'espace traditionnel, accordant une grande importance aux valeurs, valeurs latines, valeurs chrétiennes. Donc c'est là aussi, c'est une sorte d'Espagne idéalisée parce qu'il y a une certaine ignorance de la réalité espagnole.
François Livonnet, à votre avis, est-ce que ce texte soliloque du prisonnier est suffisant pour prendre connaissance de l'essentiel de la pensée maurassienne ?
Non, pas pour prendre connaissance de l'essentiel, pour prendre connaissance, je dirais presque à l'oreille, d'un ton. Il y a un certain ton, un ton qui peut surprendre, c'est un ton qui est un peu perdu. Mais il y a une pensée extrêmement vive, incisive, et qui mérite d'avoir sa place. Il ne faut pas, vous l'avez dit en présentant cette émission, il faut être plein de précautions, parce que Maurras a pu dire des choses qui sont des choses inadmissibles, hein, sont des choses assez terrifiantes. Lorsqu'il a été condamné, dire que c'est la revanche de Dreyfus, c'est considérer que le siècle, la parenthèse entre Dreyfus et Auschwitz, c'est une parenthèse où rien ne s'était produit. Il y a des choses comme ça qui sont... Bon, alors certains vous diront que ça a un autre sens, ça veut dire autre chose. Bon, peu importe. Non, ce texte ne suffit pas pour avoir une idée de Maurras. Je ne veux pas faire de la publicité facile, mais dans la petite collection de Lerne, un autre texte a été publié qui s'appelle « L'ordre et le désordre », qui est un texte qui lui-même a été écrit à peu près à la même époque, qui est un texte plus théorique, puisque c'est un texte qui revient sur les principes essentiels de sa philosophie politique. cette double inspiration, à la fois une inspiration classique et puis cette inspiration qui, chez Maurras, et ça c'est important à mon avis de le dire à des auditeurs qui découvrent Maurras, c'est que quand on parle de Maurras, nationaliste, Maurras, monarchiste, on imagine un réactionnaire, un contre-révolutionnaire, et on va penser tout de suite à Bonald, Joseph de Maistre, Burke et bien des autres. C'est oublier que Maurras, il est nourri d'Auguste Comte, il est nourri de Renan, il est nourri de Frédéric Leplay, il est nourri de Fustel de Coulanges, académicien je crois aussi. Donc il est nourri d'un certain nombre d'auteurs du 19e qui vont chez lui à la fois équilibrer et conforter une conception de la politique qui est une conception à la fois très aristotélicienne, très thomiste, l'idée qu'il y ait un ordre naturel, etc. Mais en même temps, que la société peut être analysée en termes d'une quasi-physique sociale, comme s'il y avait une physique sociale avec des lois et qu'on puisse avoir une approche scientifique du politique. Maurras, de ce point de vue-là, est extrêmement rationnel. Tout le contraire de Barrès. Barrès, on est dans le pathos, on est dans les émois, on est dans une sorte de mythologie agrarienne. Chez Maurras, on est dans la pensée classique au sens strict du terme.
Alors François Livonnet, puisque vous ne voulez pas faire de publicité pour cette collection Carnet, vous me permettrez, moi, de le faire à votre place et de citer les autres titres, au moins ceux qui sont en lien avec des académiciens. Alors tout d'abord, le journal de Michel Déon, qui fait le sujet d'une émission sur Canal Académie, où Michel Déon est venu le présenter lui-même. Deux étonnants textes de Jules Michelet sur les animaux, La République des oiseaux et La mer, qui est un surprenant récit sur les baleines. Et je vous inviterai bientôt, si vous le voulez bien, à venir en parler dans une autre émission de Canal Académie. Un texte de Tocqueville qui est la dernière partie, je crois, m'avez-vous expliqué, de la démocratie en Amérique, qui s'appelle Le despotisme démocratique. Et puis un texte de Joseph de Maistre, que je n'ai pas lu, alors dites-moi...
Éclaircissement sur les sacrifices, c'est un texte qui est très souvent édité en même temps que les soirées de Saint-Pétersbourg, mais qui est un texte à part, et qui est un texte absolument prodigieux. C'est une sorte d'analyse anthropologique du sacrifice, c'est Georges Bataille, plus d'un siècle avant, c'est des intuitions qui rejoignent celles de René Girard aujourd'hui sur le bouc émissaire. C'est une approche anthropologique vraiment des sacrifices, des guerres, des admirables textes.
Et pour terminer, vous remerciez François Livonnet d'être venu nous présenter ce livre tout à fait intéressant de Charles Maurras, mais aussi avec lequel il faut prendre les précautions que vous avez prises, et je vous en remercie. Et je voudrais dire donc que le prochain cahier de Lerne que vous avez dirigé est consacré à Michel Serres de l'Académie française. Il paraîtra avant la fin 2010, juste pour les 80 ans de notre académicien, que nous recevons toujours avec grand plaisir et grand honneur à Canal Académie. Merci d'être venu jusqu'à nous et à très bientôt pour une autre émission.
Merci beaucoup.